Et tout de suite, le premier rendez-vous d'information avec Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nous partons tout de suite en Nouvelle-Zélande où l'auteur du massacre de Christchurch a été inculpé pour meurtre il y a quelques instants, un peu après la déclaration de la première ministre néo-zélandaise qui a promis de durcir la législation sur le port d'armes. Au lendemain de l'attentat sanglant qui a fait 49 morts dans l'attaque de deux mosquées par ce terroriste d'extrême droite australien qui avait acquis plusieurs armes légalement. Les précisions en Nouvelle-Zélande de notre correspondante Karine.
En entrant dans la salle du tribunal ce matin, Brenton Tarrant a effectué un geste typique des adeptes de la suprématie blanche, comme une confirmation de la motivation derrière les massacres qu'il a perpétrés hier dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en tuant 49 personnes et en en blessant 136 autres. Pour l'instant, le manifeste d'auto-justification qu'il a posté sur Internet et où il se décrit comme partisan de la théorie raciste du grand remplacement est la pièce qui explique le mieux son passage à l'acte. Il a été officiellement inculpé de meurtre ce matin et d'autres chefs d'accusation pourraient alourdir son dossier dans les jours qui viennent. L'Australien, qui est apparu menotté, n'a pas dit un mot, ni exprimé aucun remords. Il s'est contenté de fixer la presse qui était seule autorisée dans la salle du tribunal. Les enquêteurs ont fouillé toute la journée une maison dans laquelle il aurait vécu à 300 km au sud de Christchurch, mais n'ont pas encore fait part de leur découverte. Deux autres potentiels complices sont encore en garde à vue.
Carrie Newton en Nouvelle-Zélande pour France Culture. Des centaines de milliers d'Algériens, peut-être même des millions, ont défilé dans les principales villes du pays encore hier. Impossible de dire combien exactement pour ce quatrième vendredi de mobilisation contre le régime Bouteflika. Malgré le souvenir lancinant des violences des émeutes d'octobre 1988, mais dont les leçons, semble-t-il, ont été tirées, les Algériens sont donc allés une fois encore dans la rue. Akram Belkaï, des journalistes au Monde diplomatique.
À l'époque, c'est la jeunesse qui est sortie, mais la jeunesse est sortie seule, de manière violente. Et la société algérienne avait été plutôt attentiste, plutôt pétrifiée devant cet incroyable déferlement de violence et de contre-violence, puisque très vite l'armée a repris les choses en main et que des jeunes ont été fauchés par les balles tirées par l'armée. Et ça a constitué, dans l'Algérie indépendante, l'Algérie à l'époque avait à peine 26 ans, un énorme traumatisme. Et à cette époque-là, la société a eu peur d'aller plus loin et elle a fait une erreur, à mon sens, très importante à cette époque-là. Elle a laissé le régime conduire lui-même la transition, ce fameux printemps algérien qui a débouché sur un dérapage en 1991-1992. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens ont gardé ça en tête et savent très bien que si, de nouveau, on laisse ce régime conduire une transition, un simili de transition, ça peut de nouveau aboutir au pire. Et ça, la société aujourd'hui en est bien consciente, et c'est surtout la jeunesse qui en est consciente. C'est-à-dire que c'était une jeunesse qui paraissait apolitique, totalement étrangère aux enjeux politiques, et qui se révèle à avoir une vision très très réaliste, très fine même des enjeux actuels qui concernent leur pays et leur société.
Akram Belkaï, journaliste au Monde diplomatique, était l'invité du journal de 22h de France Culture hier soir, présenté par Mathieu Laurent. La mobilisation mondiale intitulée « La marche du siècle pour le climat » va-t-elle déboucher sur un printemps climatique et social en France? C'est ce qu'espèrent en tout cas ses organisateurs aujourd'hui. Après la grève des écoliers, collégiens et étudiants hier, plusieurs cortèges sont prévus aujourd'hui avec des mots d'ordre nombreux. Il y aura dans la rue des gilets jaunes, des sans-papiers, des opposants aux violences policières et une marche spécifique aussi pour le climat. Place de la République à 15h, différentes ONG prévoient une action commune avec les syndicats dont la CGT et les gilets jaunes. Ils veulent une convergence climatique et sociale pour montrer au gouvernement que les intérêts des uns et des autres ne s'opposent pas. Élodie Nas est militante pour le réseau écologiste Alternatiba. Elle croit en cette convergence.
On dénonce cette volonté du gouvernement d'opposer systématiquement les gilets jaunes et le mouvement climat. Cette volonté de montrer que, en fait, la transition écologique est quelque chose de bobo qui sort vraiment de certaines élites parisiennes. Mais au contraire, en fait, on voit, et c'est ce qui est dit par certains gilets jaunes quand on va discuter avec eux, il y a la nécessité de, bah en fait, comment on fait pour se déplacer si toutes les lignes de train sont fermées, s'il n'y a pas de transport public dans des zones rurales ou semi-rurales, comment en faire pour polluer moins termes. Quand on n'a pas la capacité de se chauffer décemment, puisqu'on vit dans une passoire énergétique, l'alimentation biologique, par exemple, saine, ne devrait pas être réservée qu'à une élite qui a les moyens de se nourrir. Et justement, le fait d'enclencher une transition écologique, enfin, nous, ce qu'on dit, c'est que cette transition écologique-là, elle n'est pas possible sans mesures sociales.
Elodina, au micro de Célia Kiré. Un temps sec sur la quasi-totalité du territoire, des nuages sur la moitié nord, du soleil sur la moitié sud et les températures 7 à 16 degrés.